Société désirable, comment prendre soin du monde, paru aux éditions Flammarion, vous invoquez la nécessité de convoquer la joie en nous, de lutter contre les passions tristes. Vous êtes complètement candide, vous êtes utopiste, ou c'est vous qui avez raison, il faut être optimiste.
Bah, en ce moment, on a vraiment, vraiment besoin de ça. Hein.
Ouais.
On a vraiment de passion, besoin de passion positive, comme disait Spinoza, hein, d'augmenter notre capacité d'agir.
Exactement.
Voilà.
Alors, c'est un comment faire
essentiel aujourd'hui.
C'est essentiel. Comment le faire? On va évoquer...
Le point intellectuel d'une grande richesse vous permet aujourd'hui de définir les contours de cette société désirable. Hippocagne, Cagne, Normal Sup, Agrègue de Philo, ENA. En 87, dans le département du Haut-Rhin, vous êtes rapporteur des états généraux de la sécurité sociale. Un débat organisé autour de quatre thèmes, la politique familiale, le régime de l'assurance maladie, l'assurance vieillesse et le financement de la sécu.
Les partenaires sont d'une part tous les syndicats, les organisations professionnelles, la CFDT, FO, la CGT, le CNPF, toutes les organisations syndicales d'une part, d'autre part, toutes les caisses de sécurité sociale.
Vous consacrez l'essentiel de vos recherches au travail dont vous êtes une grande spécialiste. En 1995, vous livrez un essai philosophique et historique sur ce concept devenu central à partir du XVIIIe siècle.
Ce qui m'a intéressé, c'est de voir pourquoi tout à coup le travail avait pris dans nos sociétés cette importance. Pourquoi on était devenu des sociétés fondées sur le travail. C'est-à-dire, le travail est au centre du rapport social.
Vous vous intéressez aussi aux inégalités hommes-femmes, au modèle social français, au PIB et à la croissance, avec notamment en 2013 un livre au titre évocateur, « La mystique de la croissance, comment s'en libérer ?»
Pour sortir de la grave crise économique et sociale dans laquelle on se trouve, il nous faudrait plus de croissance. Et on voit bien quand même que cette croissance, elle entraîne des maux, des dégâts sur notre environnement.
Aujourd'hui, vous explorez les voies de sortie de trois grandes crises, la crise du travail, la crise de l'État-providence, la crise écologique. Vous rappelez à quel point la bascule du keynésianisme au néolibéralisme des années 80 a engendré des sociétés en mal de protection, qui n'hésitent plus à se jeter dans les bras des régimes totalitaires. Vous formulez des propositions, transition écologique créatrice d'emplois, sortie de l'obsession de la croissance, travail porteur de sens, et vous précisez, contrairement au slogan fétiche du néolibéralisme « There is no alternative », il y a bien une ou des alternatives.
Donc, Joseph Stiglitz, l'économiste prix Nobel qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques semaines, il est contre le PIB, il dira le PIB, le produit intérieur brut. Il faut trouver d'autres modalités, d'autres paramètres pour évoquer la richesse.
Oui.
Il faut faire comme le Bhoutan, le bonheur national brut.
Alors peut-être pas, j'avais discuté avec Stiglitz quand il avait co-animé la commission que Nicolas Sarkozy avait mise en place en 2008 sur les limites du PIB. Moi j'avais écrit bien avant. Qu'est-ce que la richesse? Et donc, en gros, bah oui, le PIB, tout le monde le sait, hein, c'est un mauvais indicateur parce qu'on met des tas de choses dedans, il compte pas des choses hyper importantes pour la reproduction de la société, le travail domestique, le bénévolat, etc. Et surtout, comment dirais-je, il accumule des valeurs ajoutées positives et il regarde jamais ce qui se passe sur les patrimoines qu'on utilise pour fabriquer la production, le patrimoine naturel, la cohésion sociale.
Alors, vous évoquez 44, le consensus de Philadelphie à l'origine, quoi, de l'État-providence, de la démocratie sociale. Expliquez-nous ça.
C'est alors, pour ceux qui nous regardent, les
1944, c'est à la fois la production du Conseil national de la résistance qui nous dit qu'il va falloir à la fin qu'on mette en place un programme complet de sécurité sociale et puis des tas d'autres mesures. C'est la déclaration de Philadelphie, c'est-à-dire la reconstitution de l'Organisation internationale du travail et cette idée que bah, il faut protéger les gens, il faut protéger les salariés, ils sont aveugles, ils sont faibles et donc voilà, on va faire une nouvelle société qui va, où l'État va assurer des fonctions de bien-être pour l'ensemble des citoyens. Ça, c'est déterminant. Et on dit aussi que l'État est là bah, pour avoir ses fonctions déterminantes. Et c'est tout ça qui va être plus tard, bien sûr, remis en cause.
Détricoté.
Détricoté. Pourquoi? Parce qu'en 1944, c'est aussi le moment où Friedrich Hayek écrit La route de la servitude. Friedrich Hayek, voilà, c'est le petit grain de sable qui va créer la société du Mont Pèlerin en 1947 jusqu'au consensus de Washington qui va tout renverser.
Et vous rappelez d'ailleurs aujourd'hui que la France détient le record d'Europe des accidents au travail. Vous notez aussi un chiffre qui date de 2019, c'est que 37% des actifs aujourd'hui se sentent incapables d'arriver jusqu'à la retraite.
Oui.
Est-ce qu'il y a une spécificité française, un rapport dur, douloureux au travail.
Oui, il y a une double spécificité française. Petit 1, les Français sont parmi ceux qui accordent le plus d'importance au travail. Leurs attentes sont énormes. Ils veulent un travail dans lequel ils aient un bon salaire, mais également un travail intéressant, avec une bonne ambiance, et qui leur permette de concilier leur vie familiale et professionnelle. Vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais c'est aussi le pays où ces attentes se fracassent le plus sur la réalité du travail. Ouais. Avec le chiffre que vous avez donné, et on est... Quand on regarde, il y a une enquête européenne sur les conditions de travail, on est en queue de peloton, vraiment en queue de peloton.
À propos de travail, retraite, réforme des retraites,
oui.
Tout le monde en France, enfin il y a un certain nombre de gens qui sont contre le prolongement du travail, pour rester sur cette notion de travail, mais comment fait-on par rapport à des données démographiques? En 1950, il y avait 4 actifs pour financer la retraite d'un retraité, précisément aujourd'hui, et en 2030, il n'y aura plus que 1,8 actifs pour financer la retraite de ceux qui partent, qui arrêtent de travailler. Donc comment fait-on?
Deux choses. Petit 1, il me semble qu'on aurait dû, au lieu de lancer cette question des retraites comme ça, brutalement, faire toute une organisation, une table ronde pour dire on a compris que les conditions de travail en France, ça ne va pas. On va faire une grande discussion, on va ouvrir le chantier des conditions de travail. Et deuxièmement, il faut sûrement plus d'actifs, comme vous le dites. Mais ces plus d'actifs, ben, ça peut être plus de personnes qui travaillent après 55 ans, or souvent elles se font virer à 55 ans, plus de jeunes dont le taux de chômage est très élevé, par exemple plus de femmes aussi. Ouais. Donc oui, augmentons le taux d'emploi de tous ces gens.
Et bien justement, vous parlez du travail des seniors, comme on dit, c'est ce qu'on est à partir de 50 ans, on va en parler avec vous, Anna.
Oui, la durée de vie professionnelle, elle risque de s'allonger, et donc France Travail prévoit des contrats d'alternance pour favoriser l'emploi de ces seniors, parce qu'ils ne sont souvent pas assez flexibles, pas à l'aise avec le numérique, santé fragile, difficulté à s'intégrer aux équipes. Ça, ce sont tous les stéréotypes qu'on peut entendre autour des seniors en entreprise, à tel point qu'en France, le taux d'emploi des 55-64 ans est l'un des plus faibles d'Europe. Et France Travail, donc, a lancé ce dispositif expérimental qui s'appelle Atout Senior et qui propose aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans qui vivent en Île-de-France des reconversions rapides, par exemple en comptabilité, dans la gestion de paye ou dans l'assistanat de direction, sur le modèle de l'alternance, c'est-à-dire une formation théorique de 4 mois, suivie d'un stage pratique rémunéré en entreprise de même durée, rémunéré par l'entreprise donc, et le compte personnel de formation. Et pendant tout cet apprentissage, eh bien, les stagiaires seniors vont continuer à percevoir leurs indemnités de chômage. Et l'objectif final, bien sûr, c'est d'arriver à terme à un taux de retour à l'emploi de 80% pour cette population. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative pour mieux inclure les seniors sur le marché du travail?
Si vous voulez, c'est un petit peu comme toutes ces populations dont on tend à penser qu'elles ne sont pas capables de faire ceci ou cela, or moi je pense qu'elles sont complètement capables. On voulait aussi à une époque faire un contrat jeune, parce qu'on pensait que les jeunes... Et on continue à dire, les jeunes ils veulent pas travailler, etc. On a un nombre de stéréotypes tellement effrayants, moi je pense que non, les seniors c'est une ressource hyper précieuse. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui, contrairement à ce qu'on raconte, peuvent apprendre très vite. Je veux dire, on est tous... moi je suis senior, j'utilise tout, tout ce qu'il faut, nous on sait tout faire.
Voilà. Justement, d'ailleurs, sur les technologies, Anna en parlait, l'intelligence artificielle, vous y consacrez un passage de votre livre. Vous dites, bonne nouvelle, ça ne va pas détruire autant d'emplois qu'on a pu le dire. Mauvaise nouvelle, ce sont des emplois pour nourrir, pour guider les algorithmes qui sont de mauvais emplois, ce que vous appelez les tâcherons du clic.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut éviter à tout prix le déterminisme technologique, c'est-à-dire dire, il y a une invention, alors elle va obligatoirement supprimer des emplois. Non, ça sera ce qu'on voudra en faire, l'intelligence artificielle. Mais il y a en effet un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise mal. Contrôler les gens, surveiller les gens. On vous palpe dans tous les sens, du moins, on vous met des capteurs pour savoir ce que vous pensez.
Chiffonne vos
data. Exactement. Donc ça, c'est très embêtant. Sur l'emploi, je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui est que ça peut permettre à des gens peu diplômés et avec des compétences techniques de voir leurs emplois protégés. Par exemple, il y a l'un des inventeurs de
OpenAI
fait un grand article justement
à l'origine de ChatGPT.
Tout à fait, et dit que on va certainement supprimer des emplois comme par exemple spécialiste de rédaction des impôts, mais pas du tout les bouchers, les charcutiers, les plongeurs, etc.
Bon.
avoir. Oui. Il y a plein de choses que vous évoquez, la nécessité d'arriver à une forme de sobriété, oui. La nécessité aussi de trouver un narratif écologique qui serait plus du côté de la joie et absolument. De l'humour éventuellement oui. que tel qu'il est, punitif, oui. coercitif. Oui. Pour terminer, Dominique Méda, vous n'avez pas envie de mettre les mains dans le cambouis, vous êtes brillante, vous êtes normalienne, vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, vous ne voulez pas y aller pour changer la vie, comme disait Rimbaud, vous engager en politique concrètement? Non, vous avez dit il y a quelque temps, les politiques n'écoutent plus les intellectuels, alors allez-y.
D'accord.
D'accord.
Et ben, alors allez-y. C'est officiel ce soir.
Hein, vous allez avec moi?
Non. Mais non, moi je ne suis pas comme vous, je ne suis pas une intellectuelle.
En tout cas, sur Désirable, oui, il oui. faut montrer que si on ouvre ce grand chantier, ça sera mieux.
Très
ça
bien.
Ça sera mieux, en particulier pour les classes populaires, et ça sera un grand projet.
Merci Dominique Méda.
Merci.